Gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Luc, au chapitre 7 et au verset 36. Évangile de Luc, chapitre 7, verset 36, ou un texte bien connu, hein, de nous, de chacun d'entre nous qui sommes des lecteurs des Écritures. Il a dit ceci: un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Et Jésus prit la parole et lui dit: « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Amen. » Voici un texte bien connu. Un pharisien invite Jésus à manger avec lui. Banale invitation. Quand on retrouve dans la parole de Dieu combien de fois Jésus a été invité. Oui, banal, mais pas tant que ça, parce qu'on va s'apercevoir au travers de ce texte qu'il y a quelque chose de particulier qui va se passer. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, tout d'abord, ce pharisien se moque du qu'en dira-t-on. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il a prié Jésus de venir manger chez lui. Et il n'a pas tenu compte des rumeurs qui disaient que Jésus s'attelait avec des gens de mauvaise vie. C'est la parole qui nous le dit au verset 34. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Il n'a pas regardé à sa réputation. Cet homme s'est retrouvé là et n'a pas regardé aux rumeurs qu'on pouvait, je dirais, projeter sur Jésus-Christ. Il a invité cet homme parce qu'il y avait quelque chose de particulier chez lui. Il y avait quelque chose qui émanait de lui et il voulait mieux le connaître. Il n'a pas caché même cette invitation. Il ne s'est pas mis là en disant à Jésus: écoute, tu reviens ce soir, on verra plus tard. Non, il n'a pas été ce Nicodème qui, lui, par contre, est venu de nuit voir Jésus. Par peur peut-être de représailles, par peur du qu'en dira-t-on, par peur peut-être qu'on lui reproche toutes sortes de choses, peut-être le fait que Jésus était avec les publicains. Non, on voit que cet homme, ce pharisien, a ouvert, je dirais, grand la porte, a invité Jésus à la maison, et là ils ont commencé à discuter, à échanger ensemble. Il a fait la chose au vu et au su de tous, même que la femme pécheresse est entrée dans cette maison après avoir appris que Jésus y était. Alors tout le monde le savait, même cette femme. Et ça a été l'occasion pour elle de rentrer, de pas forcément discuter, parce que la Bible nous dit qu'elle est venue aux pieds de Jésus, elle a répandu de l'huile, elle a pleuré sur ses pieds, elle a essuyé. C'était quelqu'un qui était meurtri, quelqu'un de blessé, quelqu'un qui était en souffrance au plus profond de son cœur. Mais voilà que le fait qu'elle soit rentrée dans cette maison, on est rentré en scène avec cette femme. Ça a déclenché un échange de la plus haute importance entre Jésus et ce pharisien. À ce moment où cette femme est rentrée dans la maison, il y a eu comme quelque chose qui s'est passé. Ce quelque chose vient de cette réflexion de ce pharisien qui dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait que cette femme est une pécheresse. Parce que cette femme était aux pieds de Jésus. Et puis, ce pharisien est un peu choqué, dit mais qu'est-ce qu'elle fait là? Jésus, s'il savait qui était cette femme, il l'aurait rejetée. Et il disait ça en lui-même. Dans son cœur, il le disait. Et au moment où il a dit cela, alors Jésus lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Ça, vous savez, frères et sœurs, ça me rassure de savoir que Jésus lit nos pensées. C'est peut-être pas toujours rassurant pour tout le monde, quoique. Mais c'est rassurant parce qu'on s'aperçoit que Jésus connaît notre besoin, connaît notre situation. Et de suite là, il a connu la situation de ce pharisien. C'était quelqu'un qui finalement ne connaissait pas le maître. Et il s'est trouvé là à penser de manière négative par rapport à cette situation. Le fait que cette femme soit rentrée dans la maison, ça a permis une connexion avec le maître. C'est toujours rassurant de savoir que Jésus a quelque chose à nous dire. Ça montre l'intérêt qu'il a pour nous. De son côté, ça ne change rien. Et c'est formidable de savoir que le maître veut nous parler, le maître veut dialoguer avec nous. Ça montre que nous sommes encore en capacité de l'écouter. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et je crois que pour chacun d'entre nous, combien de fois nous sommes passés à côté d'une parole de Dieu, d'une direction de Dieu. Ça me fait penser à cet homme, Jonas. Jonas qui avait reçu une parole de Dieu pour aller à Ninive. Et cet homme, voilà qu'il se retrouve au bord du lac, il trouve un bateau, il a de l'argent, et puis il part dans le sens contraire. Oh, vous savez, je vais vous dire, entre nous, là, à ce moment-là, il aurait pu dire, mais voilà, c'est la volonté de Dieu, j'ai de l'argent, je trouve le bateau, toutes les portes s'ouvrent. Alléluia, Dieu est avec moi. Et souvent, on fait comme ça. Dieu est avec moi, on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas, on ne prend pas le temps de le consulter, on voit des portes s'ouvrir. Et on se dit, Dieu est avec moi. Et à partir de là, on va dans cette direction sans même consulter le maître, sans même savoir ce que Dieu veut, ce qu'il pense. Et Jonas, combien de fois on a pu se retrouver comme Jonas, à se retrouver dans cette situation où le confort est là, où les portes s'ouvrent, où les dispositions font que eh ben, maintenant on peut avancer, mais on avance dans des voies de garage. Et ça montre que nous avons besoin d'avoir cette capacité d'écouter le Seigneur. Ça montre aussi, quand Dieu nous parle, quand il nous dit « j'ai besoin de m'entretenir avec toi », ça montre aussi que nous sommes encore et toujours dans cette démarche d'apprendre du maître, savoir se remettre en question. Je voulais vous poser une question. Est-ce que ça vous est arrivé de vous remettre en question? Savoir s'asseoir, faire peut-être le bilan de notre vie, de notre cœur, savoir où j'en suis avec lui. Savoir si vraiment je suis toujours dans la bonne direction au lieu de courir et de courir pour oublier plein de choses et se retrouver à la fin en se disant « Oups, j'ai peut-être oublié Jésus derrière. J'ai peut-être oublié le maître. J'ai peut-être oublié le Seigneur, le Sauveur en cours de route. » Ça me fait penser à ce fils prodigue dans Luc chapitre 15, verset 17, étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Étant rentré en lui-même. Cet homme, excusez-moi l'expression, il a fait une de ses boulettes, juste incroyable. Il s'est retrouvé devant son père, il a dit « Papa, écoute, donne-moi mon héritage, parce que j'ai envie de partir, j'ai envie de vivre ma vie comme bon me semble. » Vous savez qu'en faisant comme cela, en demandant l'héritage, en général l'héritage, ça se transmet au décès de la personne. En prenant l'héritage au vivant de son père, il est en train de dire à son père, à mes yeux, tu es mort. Et c'était très fort dans la culture juive. De faire cela, c'était rompre le lien, tu es plus mon père. Et il a pris cette manne, il est parti, il a voyagé, et là, à un moment donné, il a tout dépensé. Et la Bible nous dit que quand il a commencé à garder les pourceaux, les cochons et tout ce que vous voulez autour, il a commencé à réfléchir. Oh, qu'est-ce que je fais là ? Commence à rentrer en lui-même. Et vous comprenez mieux après, plus tard, au travers de ce texte, que quand il retourne voir son père, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous savez ce qu'il dit plus loin ? Il dit, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Parce que quand il a pris l'héritage, c'était terminé. C'était plus son père. Et lui, dans sa tête, il s'était dit, finalement, je suis plus son fils. Forcément. Alors traite-moi comme l'un de tes ouvriers. C'était vraiment une rupture, tout cela, parce qu'au départ, il a fait un acte grave de quitter sans connaître la pensée, la volonté de Dieu. Et quand il a fait cette bêtise, il est rentré en lui-même. Et c'est là où je voudrais m'arrêter ce matin. Parce que tu es peut-être dans cette phase-là, où tu as besoin de rentrer en toi-même, où tu te dis, non, c'est trop tard, c'est terminé, je suis allé trop loin dans ma démarche. Et puis, à quoi bon, comment je pourrais rattraper toutes ces années perdues? Il y a comme une situation qui est là. Je vais vous dire, Jésus n'interpelle jamais une personne qui n'est pas disponible. Et quoi que tu aies pu faire, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, si tu es à l'écoute du maître, ce matin, il va te parler, mais il ne parlera jamais, jamais à quelqu'un qui ne veut pas entendre la parole de Dieu. Il va attendre plus tard qu'il soit disponible. Le fils prodigue ne pouvait pas entendre au moment où il a dit à son père « au revoir ». Il aurait pu, il aurait beau lui parler en long, en large, le fils ne pouvait pas entendre. Et c'est quand il est rentré en lui-même qu'en fait, le Seigneur a commencé à venir à frapper à sa porte et à lui dire « voilà ce qu'il faut que tu fasses ». Il y a des moments où on n'a pas envie d'écouter le maître. On aura beau dire aux gens en long, en large, en travers, toutes sortes de choses, ils n'entendront pas. Et peut-être que tu as été dans cette phase où tu n'as pas voulu entendre. Et peut-être même, je dirais que tu es dans cette phase-là aujourd'hui. Où Dieu a peut-être voulu te parler il y a quelques jours, peut-être même à la conférence. Et tu t'es fermé, tu dis non, mais je ne veux pas. Et tu, jusqu'à aujourd'hui, tu t'es refusé à entendre toutes sortes de choses. Mais Samuel, lui, est un exemple de disponibilité. Dans 1 Samuel, au chapitre 3, verset 9, il dit « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » C'était un homme qui est à l'écoute de Dieu, un homme qui a voulu vraiment être tout près de la pensée, de la volonté de Dieu dans sa vie. Vous savez, l'expérience spirituelle se produit toujours, mais toujours, quand Jésus a la disponibilité de nous dire ce qu'il a à dire. Alors moi, je pose la question ce matin, est-ce qu'il va trouver dans ton cœur, je dirais, un terrain disponible à entendre ce qu'il a à te dire ? Là est toute la question. Acceptons de l'entendre, de le recevoir. Vous savez, je crois que le Seigneur a quelque chose à dire. Nous avons quelque chose à entendre. Et plus qu'à entendre, nous avons quelque chose à recevoir. Regardez l'exemple de Marthe et Marie. Marthe et Marie, quand Jésus est rentré dans la maison, Marie c'est une femme formidable. On le verra, vous pouvez le voir plus tard quand, à la mort de Lazare. C'était vraiment un modèle d'exemple. Mais au moment où Jésus est rentré dans la maison de Marthe et Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Marie, elle s'est agitée à faire le ménage, à nettoyer, à faire la propreté, à vouloir accueillir Jésus. Elle a fait de tout son cœur. Elle a fait avec ses tripes. Elle a fait avec amour, comme n'importe qui aurait pu faire. Elle s'est mise, elle s'est jetée d'un côté et de l'autre. Et de l'autre côté, il y a eu Marthe. Marthe qui s'est mise au pied du maître. Marie, excusez-moi, qui s'est mise auprès du maître, excusez-moi. Elle était à l'écoute. Et elle s'est penchée. Elle a commencé à écouter la voix du Seigneur, la voix du Sauveur. Alors que sa sœur s'agitait de tous les côtés. Et ce n'est pas qu'elle faisait mal, mais ce n'était pas le moment de le faire. Ce n'était pas le moment, je dirais, de s'agiter à tout vent. Il y a un temps pour tout, nous dit la Bible. Et à ce moment-là, vous savez, je crois qu'à un moment donné de notre vie, nous avons besoin de nous asseoir, d'attendre. Recevoir Jésus pour pouvoir faire peut-être le ménage et l'accueillir de manière extraordinaire. Oui, c'est très bien, mais ce n'est pas ce qu'il veut pour toi aujourd'hui. Une interprétation qui en dit long, quand il nous a dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire ». Au début du récit, on nous parle d'un pharisien. À 4 reprises, on nous parle d'un pharisien dans la lecture que je vous ai faite. Et à la fin, quand Jésus l'interpelle, il n'appelle pas en le citant le pharisien, il le cite par son nom, Simon. L'affaire, elle est personnelle, elle est intime. Et ce matin, le Seigneur voudrait savoir s'il y a des Simons au milieu de nous. Des Simon qui voudraient parler avec le maître. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Pourquoi? Parce qu'il connaît notre cœur. À l'exemple de Nathanaël dans Jean chapitre 1 verset 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël lui dit voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Et Jésus lui répondit avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jésus connaît notre cœur. Mais plus que cela, il connaît nos pensées, on le disait tout à l'heure. Il connaît nos pensées. Psaume 139, verset 2. Tu sais quand je m'assis, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Et puis, il connaît le nombre de jours que nous avons à vivre. Toujours dans le psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés. C'est-à-dire que le Seigneur, avant même qu'on soit formé dans le ventre de notre maman, il nous connaissait déjà. Oh, vous comprenez bien qu'il n'avait pas affaire à un pharisien. Il avait affaire à un Simon. Il avait affaire à toi, à moi, à chacun d'entre nous ce matin. Et là, il y a quelque chose qui est en train de prendre place. Pourquoi ? Parce que Simon veut dire celui qui entend. C'est important de pouvoir entendre Dieu. C'est important peut-être d'être à l'écoute de Dieu. Dans ce monde de communication, on n'entend plus rien maintenant. Il y a tellement d'informations qui nous passent de tous les côtés. Trop de gens parlent pour ne rien dire. Aujourd'hui, en France, nous sommes les rois de colloques, de commissions de travail, de débats en tout genre, qui accouchent très souvent d'une souris. Et encore quand ça accouche d'une souris, parfois de rien du tout. On perd notre temps à mille et une choses. Et là, dans ce temps de travail, conversation, mais nous sommes que des pièces, nous sommes que des numéros, nous sommes que des hommes, nous sommes que des humains, sans aucune identité. Et là, quand Jésus s'approche de toi, il te dit, « Oh Simon, il t'appelle par ton nom. Tu n'es pas une chose. Tu n'es pas un simple numéro de sécurité sociale. » À ce moment-là, il y a comme quelque chose qui est en train de prendre place. Et dans ce grand bazar, Jésus nous dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et là, c'est une autre histoire. Là, il y a quelque chose de sérieux qui rentre. Comprenez-moi bien dans ce que je vais vous dire, dans ce que je suis en train de vous transmettre ce matin. Quand on lit la Bible, c'est très bien, on prie, c'est très bien, ça c'est ce qu'on fait tous les jours, parce qu'on a envie de s'entretenir, de se faire du bien, d'être rempli et tout, mais c'est pas parce qu'on a lu la Bible qu'on a prié, qu'on a entendu la voix de Dieu. On s'est entretenu dans des paroles de Dieu qui nous ont fait du bien, qui nous ont interpellés, qui nous ont touchés, qui nous ont vraiment peut-être parlé quelque part, mais sans plus. Et voilà qu'à un moment donné, Dieu dit, c'est bien ça, mais moi, j'ai quelque chose à te dire, là. J'ai un point sur lequel je voudrais m'entretenir avec toi. Et quand Jésus parle, c'est consistant, c'est vrai, éprouvé, capital, indispensable. Il veut te dire quelque chose. Jésus ne parle jamais pour ne rien dire. Ce que Jésus a à te dire, c'est peut-être un message personnel, et c'est certainement un message personnel, c'est peut-être une parole de pardon qu'il voudrait que tu partages avec quelqu'un, que tu ailles demander pardon à quelqu'un, que tu reçoives ce pardon. Une parole de guérison à saisir de la part de Dieu. Parole peut-être de réconfort parce que tu as été cassé, brisé, tu as été secoué, tu as été remué. Une parole d'avertissement où il te dit attention, là où tu vas, tu vas à la catastrophe. Peut-être il veut te donner une parole de révélation, il veut te montrer quelque chose de bien particulier pour ta vie, de manière intime, personnelle. Parole de vocation, un appel pour un service de Dieu. Comprenez-moi bien. Dieu, à un moment donné, il veut nous parler. Il veut agir dans notre vie. Je rendais ce témoignage tout à l'heure. C'était un frère qui était là et qui priait, qui demandait à Dieu vraiment une direction, qui vraiment demandait à Dieu de lui parler, de le conduire, tout ça. Et puis après, une fois qu'il finissait ce temps de prière, il se levait et puis il partait au boulot et il revenait à la maison et puis il priait, il cherchait la face de Dieu. Ça a duré plusieurs temps. Et un jour à l'église, un frère est venu le voir, dit voilà, frère me dit Dieu me dit de votre part que voilà, le Seigneur vous a parlé, il va agir dans votre vie, il va vous conduire, il va vous diriger, il va répondre à votre prière alors que vous avez intercédé. Il était remué, il était secoué, il était content de savoir que Dieu avait enfin parlé. Et puis, ça l'a travaillé toute la semaine. Et puis, il est revenu voir ce frère une semaine après, il dit, pourquoi vous avez parlé de la part de Dieu? Pourquoi il ne m'a pas parlé directement? Et le frère dit, ah ouais, j'ai oublié de vous le dire. Parce que vous n'avez pas pris le temps avec lui. Il voulait vous répondre, mais vous ne lui avez pas laissé le temps. C'est important de laisser le temps. On est dans un monde de communication, d'information, mais pas de réception. Et c'est ce qui, malheureusement, tue beaucoup de chrétiens. Où on reçoit, on reçoit, on reçoit. Beaucoup, d'un côté, de l'autre, mais on manque tout simplement le temps de recevoir la parole de Dieu, une réponse qui en dit long, alors que Jésus vient de lui dire « Simon, j'ai quelque chose à te dire ». Là, Simon lui répondit de manière magistrale « Maître, parle. » Deux mots. « Maître, parle. » Pas commencer à discuter, à dire « Ah bon, oh, t'as quelque chose à me dire ? Ben écoute, viens, on va boire l'apéritif ensemble, on va d'abord parler de tout et de rien, et puis après tu me diras ce que tu veux. » Non. Maître, parle. Là, il a compris qu'il y avait quelque chose, il fallait qu'on s'arrête. Et Seigneur voudrait te dire ce matin, stop, arrête. Arrête. Tout simplement, dis-lui à ce maître, maître, parle. Je veux être un Simon, c'est-à-dire celui qui entend maintenant. Je veux arrêter de parler beaucoup au Seigneur, de parler beaucoup à ce Seigneur, à ce Sauveur. Je veux maintenant lui laisser cette place pour qu'il vienne, je dirais, m'interpeller au plus profond de mon cœur. L'emploi du terme maître, là, montre que Simon reconnaît en Jésus quelqu'un qui enseigne avec autorité. Alors c'est sûr qu'il n'a pas encore reconnu comme le Fils de Dieu, le Messie d'Israël à ce moment-là, mais il a reconnu comme quelqu'un qui était vraiment au-dessus de lui, qui avait reçu quelque chose de la part de Dieu. Ces deux mots soulignent un point important, c'est laisser Dieu nous parler. C'est laisser Dieu nous parler. Dans Luc 4:4, il est dit « L'homme vivra de ce qui sort de la bouche de Dieu ». Laissez Dieu nous parler parce qu'on parle beaucoup à Dieu, mais on ne lui laisse pas la parole. Dire à Jésus, maître, parle, ça demande du courage. Ça demande du courage. Ça demande d'attendre sa réponse. On n'a pas envie d'attendre aujourd'hui. On est dans le drive spirituel. On veut des églises drive. On va s'arrêter en voiture devant l'église, on reçoit une parole de Dieu et on continue, on rentre à la maison. Mais c'est comme ça. J'ai vu des reportages comme ça où des gens rentrent dans les parkings en voiture, ils écoutaient la parole, ils repartaient. Ça existe aux États-Unis. On ne veut plus entendre. Le Seigneur voudrait te parler. Ça demande de l'attendre, d'attendre sa réponse. Ça demande d'être disposé à obéir. Disposé à obéir, pourquoi ? Parce que quand on est... quand on croit être dans la volonté de Dieu et qu'on dit à tout le monde, ben voilà, c'est le Seigneur qui m'a parlé, je suis sûr, c'est Dieu qui veut tout ça. Et qu'à un moment donné, Dieu dit, viens ici, Simon, viens, je voudrais te parler. Et qu'il te montre que finalement, tout ce que tu as projeté, ça ne venait pas de lui. Eh bien, je vais à ce point suivant, ça demande une grande honnêteté de dire qu'on s'est trompé. Et entre nous, vaut mieux être honnête que de cacher... qu'on s'est trompé. Il n'y a pas de honte de se tromper. Il n'y a pas de honte de faire des erreurs. Ça arrive à tout le monde. Ça a dû arriver à chacun d'entre vous, à moi-même en tout cas, croire que c'était la volonté de Dieu, que finalement c'était la mienne. Parce que je n'avais pas suffisamment cherché la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. J'étais un petit peu comme Jonas. On trouve l'ouverture, on trouve le bateau, on trouve l'argent, on croit que c'est de Dieu. Allez, amen. Puis à un moment donné, on se dit quand même, ce serait bien d'aller passer un petit temps dans le jeûne et la prière et puis chercher la volonté du Seigneur. Et là, on se dit, aïe. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il faut, quand on veut venir auprès du Maître et qu'on lui dit, Maître, parle, ça a des conséquences dans notre vie spirituelle. Ça aura forcément des conséquences, mais des conséquences heureuses, forcément. Des conséquences bénissantes, juste incroyables. Des choses qui vont faire que ben, ça va t'éviter la catastrophe. Ça va t'éviter de te prendre un mur. Ça va t'éviter de faire des erreurs. Ça va t'éviter de te retrouver, je dirais, à être planté là, bloqué, stoppé par la parole de Dieu, par la direction divine. Je crois qu'il est important d'être à l'écoute du Maître. Quand Dieu parle, il faut lui obéir, sinon les effets de sa parole seront annulés. Pas du tout de dire, écoute Seigneur, c'est bien, tu m'as parlé, c'est formidable, je vais t'obéir, mais quand même, je vais y mettre un petit peu de moi dedans. Et c'est toujours là où on fait fausse route. Voici deux exemples dans les Écritures. Dans Actes 2, 41, il dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ». J'aime ce texte parce qu'il nous est parlé de l'évangélisation, il nous est parlé de Pierre qui a prêché un message extraordinaire. Ils ont été tous bousculés. Plus de 3000 âmes ont été sauvées. Et puis après, à ce moment-là, ils ont dit, ils acceptèrent sa parole et furent baptisés. Ce principe de soumission qu'on a demandé à des jeunes dans la foi est appliqué à tous les stades et à tous les niveaux de la vie spirituelle. C'est pas le tout de dire à cette personne, il faut que tu obéisses à la parole de Dieu. Ah, toi aussi, mon frère, moi aussi. Quand Dieu nous parle, il faut lui obéir. Vous connaissez Simon, c'est un autre Simon, c'est pas celui qu'on vient de parler, le pharisien. Simon Pierre, celui, ah, c'est un chaud bouillant comme prédicateur, hein. Quelqu'un qui est un fonceur, hein. Quelqu'un qui était, voilà, il fonçait, il discutait après. Alors, parfois, ça lui a valu quelques petits soucis. Mais enfin, ça a quand même été quelqu'un qui a marché sur les eaux. Alléluia. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont dû le faire ici. Hein. En tout cas, pas moi. Cet homme, Pierre, il dit maître, dès le départ, maître. Dès le départ, il le positionne. Il le dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et là, je voudrais m'arrêter sur ce point avant de terminer. C'est que combien de fois nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre? Combien de fois nous nous sommes jetés corps perdu dans toutes sortes d'activités? Je rendais ce témoignage tout à l'heure au premier culte de ce frère qui était vraiment motivé avec son annexe de faire de l'évangélisation toute l'année. Il n'y a rien de mal de faire de l'évangélisation, bien au contraire, vous êtes d'accord avec moi? Et ce frère a partagé avec les anciens, dit voilà, tous les deux mois, on va faire des campagnes d'évangélisation, on va choisir un frère, on va l'inviter, et puis on va avoir vraiment des temps forts pendant 2-3 jours. Et ça, tous les deux mois, cette petite annexe a investi plus de, je crois que c'est de 2 500, 3 000 euros. C'est énorme pour une petite annexe. Ça, dans toute l'année, pour faire des campagnes d'évangélisation. Et alors voilà que les campagnes ont eu lieu, et tous les deux mois, il y a eu vraiment un effort incroyable dans l'évangélisation. Écoutez-moi bien. À la fin de l'année scolaire, ils se sont retrouvés fin juin à faire un tour de table avec les frères, les responsables. Et quand ils ont fait le bilan, ils se sont aperçus que pas une seule âme était baptisée. Pas une seule âme s'est convertie. Ils avaient travaillé toute l'année sans rien prendre. Et là, ils se sont sérieusement posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Comme ces hommes, comme Pierre, un expert dans la pêche, il savait exactement où se trouvaient les bancs de poissons. Il savait qu'il fallait qu'il passe par là parce qu'il y avait des pierres et que les poissons aimaient manger en dessous de ces pierres. Il savait que les bancs de poissons, on devait les ramasser ici, alors on allait mettre le filet là. Bien, Jésus a dit non, tu ne vas pas les mettre là. Tu vas les mettre là-bas, les filets. Et là, il n'a pas discuté, il n'a pas commencé à dire, écoute, Seigneur, c'est toi qui m'as appris, j'ai l'expérience de la pêche. Non, il n'a rien dit, tout cela. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. C'est-à-dire que quand le Seigneur vient et commence à nous parler sérieusement, il a des choses à nous dire, il va nous chambouler. Il va dire des choses, il va nous annoncer des trucs, si on peut appeler ça des trucs, qui vont complètement nous remuer. Ça va te remettre en question. Va peut-être faire le contraire de ce que tu avais prévu de faire, de ce que tu avais fait jusqu'à maintenant. Tu as travaillé toute l'année sans rien prendre, toute la nuit sans rien pêcher. Alors, le Seigneur va venir et dire, maintenant tu l'as fait de toi-même, c'est très bien. Alors maintenant, moi, je vais te montrer comment il faut faire. Et c'est là où le Seigneur voudrait s'entretenir avec toi. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et j'ai besoin de toute ton attention pour que tu comprennes ce que je vais te dire parce que ça va peut-être te remuer. Ça va t'enlever peut-être toutes les idées préconçues que tu as eues jusqu'à aujourd'hui. Ça va peut-être t'enlever tous les projets que tu avais déjà bien placés, bien calculés, bien établis, tout ça. Toutes ces choses-là. Il faut vraiment que tu viennes parce que j'ai quelque chose à te dire. J'ai des choses à te dire par rapport à ta situation. J'ai besoin de t'aider. J'ai besoin de t'accompagner. Et c'est à partir de là que ce Simon, qui était un pharisien, a été complètement chamboulé par le Seigneur. Il a été complètement transformé par le Seigneur Jésus. Il y a eu comme cet attouchement de Dieu qui l'a remué. Et c'est pour ça que Dieu voudrait te dire, Simon, toi qui m'entends, j'ai quelque chose à te dire. Plus que la lecture de la Bible que tu as chaque jour avec moi, c'est très bien. Ce temps de prière sincère que tu as avec moi, parce que je le vois, ce temps de prière. Mais j'ai besoin qu'après ce temps-là, tu restes là, tu m'écoutes. Je veux te parler. Je veux te parler. Et je veux te parler d'une certaine manière qui va te permettre de mieux comprendre, parce que tu me poses beaucoup de questions, mais je n'ai pas le temps de te répondre. Et ce matin, il t'appelle à ce que tu puisses prendre le temps de l'écouter, de l'entendre, de l'obéir, de saisir les choses, afin que tu puisses aller sur le chemin, parce que lui, il a fait des projets de paix et non de malheur pour ton avenir. Juste comprendre que ce qu'il va te dire, c'est pour ton bien, c'est pour toi, c'est pour t'orienter, c'est pour te conduire. Il suffit juste d'écouter. Ouais, mais je le sens, Seigneur. Non, non, plus que sentir. Des fois, vous savez, on sent les choses. Je crains toujours ceux qui ressentent comme ça et dont les fruits derrière ne sont pas toujours très clairs. Ressentir est une chose, mais on est émotif, on est humain. Et au-delà des émotions, il y a plus que ça. Le Seigneur veut te parler à toi et il veut s'entretenir, il veut te dire quelque chose de particulier. On va courber nos fronts ensemble.